Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les analyses politiques, géopolitiques, sociologiques et économiques ne manquent pas depuis plus d'un an pour tenter de comprendre les causes et les conséquences de la pandémie. Plus rares sont les réflexions sur les liens qu'entretiennent les pandémies et la mondialisation. Le Covid-19 est généralement décrit comme une crise de la mondialisation, laquelle est brandie depuis plusieurs mois par ceux qui prédisent qu'elle vit ces dernières heures et que le protectionnisme va revenir en force. Regard avec nos deux invités, auteurs de « Crise épidémique et mondialisation des liaisons dangereuses » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Anne Levasseur Franceschi, économiste travaillant sur les problématiques de l'économie de la santé. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, macroéconomiste, professeur à Aix-Marseille Université et chercheur associé au CEPI. Bonjour.
Bonjour.
La diffusion des pandémies a souvent été le symptôme de l'émergence de nouvelles routes commerciales et des interdépendances économiques. Cela ne date pas d'hier. La peste de Justinien du 6e au milieu du 8e siècle, la peste noire au 14e siècle ou encore la grippe espagnole au siècle dernier. La mondialisation est dite coupable de ce que nous vivons. Quelles doivent être, d'après vous, les leçons à tirer de la pandémie concernant la mondialisation à l'heure actuelle et dans quelle mesure cette pandémie et la crise actuelle est-elle atypique ? Anne Levasseur Franceschi.
Cette question de la mondialisation qui serait coupable des épidémies, on s'est posé cette question avec Gilles et il y a deux aspects très importants à prendre en compte pour pouvoir répondre à cette question. Tout d'abord, la nécessité d'une vision globale. Des économistes, des médecins, des historiens, des politiques, on a essayé en fait de prendre le point de vue de tous et de ces compétences croisées pour comprendre la problématique des virus. Les virus, c'est un monde vivant. Les virus existent depuis la nuit des temps, ils se meuvent, se déplacent, ils contaminent les hôtes comme les rats par exemple, les moustiques, et ils accompagnent les voyageurs. Donc il y a une coexistence de trois mondes, le monde humain, végétal, animal, et tout est lié. Donc la mondialisation, c'est lié avec le réchauffement climatique, les problèmes de biodiversité, mais aussi la démographie. Et on le verra, les maladies non transmissibles, par exemple, liées à l'obésité. Donc, nous n'avons pas voulu tomber dans ce qu'on appelle la virophobie, c'est-à-dire la crainte exacerbée des virus. L'homme est hôte des virus. Et ce qui a changé simplement avec cette crise, ce qui est tout à fait nouveau et inattendu, c'est le problème de temporalité. En effet, si l'on prend à l'échelle historique, la crise actuelle, elle n'est pas exceptionnelle, mais cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas grave. C'est la première fois, cette crise, où les hommes ont ressenti un décalage, même un gouffre, entre la temporalité de la mondialisation qui est immédiate. On a été, en fait, le virus s'est propagé en quelques semaines. Donc, ça a entraîné une frayeur, une angoisse des êtres humains. C'est le temps réel. Donc, la mondialisation, en fait, elle a raccourci ce temps. Et le problème, c'est que la temporalité des solutions, notamment médicales, les traitements, les vaccins, ne peuvent pas être immédiats, mais sont à plus ou moins long terme. Les êtres humains ont vécu ces dernières décennies des progrès phénoménaux de la médecine, et ces progrès phénoménaux ont laissé croire que l'on est invincible, peut-être au-dessus des lois de la nature, et on a une volonté de tout contrôler. Mais la mort, en fait, fait partie de la vie. Donc, dans ce sens, avec Gilles, nous avons dit que la mondialisation, selon nous, n'est pas coupable des épidémies, mais responsable de l'accélération des transmissions.
Alors, je vais vous laisser rebondir, mais puisque Anne Levasseur Franceschi parlait des virus, j'ai ce chiffre pour nos auditeurs, sans vouloir effrayer peut-être davantage. On estime à 1,7 million le nombre de virus non découverts actuellement présents dans les mammifères et les oiseaux, dont à peu près la moitié pourrait avoir la capacité d'infecter les êtres humains. C'était juste une petite parenthèse, Gilles Dufresneau. Les enseignements à tirer de la crise que nous vivons sur un plan général, avis partagé avec Anne Levasseur Franceschi, et peut-être de façon plus concentrée sur les enseignements à tirer sur nos politiques de santé.
Oui, effectivement, bien évidemment, comme nous avons écrit le livre ensemble, je partage tout à fait ce qui était dit. Sur les politiques de santé, il me semble qu'il y a une dimension géopolitique qui est réapparue, puisque l'on a vu finalement les stratégies hégémoniques réémerger à une vitesse très importante avec, on en parlera sans doute tout à l'heure, le rôle de la Chine. Un point important, c'est aussi la nécessité peut-être en matière de santé de repenser le multilatéralisme, c'est-à-dire la manière de redéfinir ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des pays, de façon coopérative, des règles, et ceci a remis au centre du jeu des organismes comme l'OMS, qui en période de crise est peut-être un rôle peut-être plus discret, donc on a l'importance de l'OMS. Et puis ça, l'autre enseignement, c'est que ça va nous pousser à réfléchir à la manière dont nous coordonnons les échanges. On a vu par exemple que la crise a soulevé une problématique en matière de livraison de masques, en matière de livraison de matériel, etc. Alors les pays l'ont abordé, les gouvernements l'ont abordé sous un angle exclusivement de compétition géopolitique, bien entendu, mais ça soulève d'autres questions beaucoup plus structurelles sur finalement comment est-ce qu'on réorganise les échanges internationaux à partir du moment où la santé devient un bien commun.
Donc les échanges internationaux.
Tout à fait.
Alors, la question de la coordination, coopération, sont des termes que Gilles Dufresneau vient d'employer, Anne Levasseur-Franceschi. La gestion de la pandémie a révélé les rivalités hégémoniques entre nations qui sont un frein, finalement, dans les solutions à apporter. Comment, d'après vous, accroître la coordination entre États et finalement aussi dépolitiser, d'une certaine manière, la réponse aux épidémies?
Alors, tout d'abord, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur dépolitiser. On a vraiment essayé de sortir des idéologies qui vraiment sont un raisonnement 0-100%, donc on est mondialisé ou on ne l'est pas, parce qu'on a vu dans beaucoup de discours que les idéologies étaient propices à des discours culpabilisants, faire ou ne pas faire. Donc, certains arguments pro ou anti-mondialisation comportent certaines idéologies et se réfèrent à des principes. Donc on dirait par exemple le commerce est lié à la liberté, l'homme est ou n'est pas supérieur à l'animal, toutes ces questions d'équité. Donc on va répondre à votre question en fait en essayant de sortir justement de ces idéologies et en adoptant plutôt au niveau du commerce international une dimension éthique. Donc, réfléchir aux comportements qui seraient souhaitables pour rendre la mondialisation soutenable, donc compatible avec des objectifs de sécurité sanitaire et des objectifs environnementaux. Le problème en tant que tel n'est pas la mondialisation, mais de trouver en fait le seuil où ça va être soutenable. Sur la deuxième partie de la réponse, on a réfléchi sur la santé comme commun mondial. Donc, un commun, c'est quelque chose qui n'est pas appropriable, donc non exclusif. Il y a une gestion collective de la ressource pour assurer sa pérennité. Et puis enfin, les réglementations font l'objet d'une concertation collective. Alors, ça amène en fait à repenser, comme l'a dit Gilles, le multilatéralisme. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? On peut prendre les masques. Gilles l'a bien dit, il y a eu une compétition. Alors on pourrait imaginer, comme ça s'est passé par exemple en 2008 avec la BCE, avec cette crise, de faire en fait des fournisseurs en dernier ressort.
Alors, BCE
la Banque Centrale Européenne. Donc en fait, quand il existe une crise, on pourrait imaginer que des pays soient, alors bien sûr sous l'égide d'organisations internationales, soient désignés, se spécialisent en fait dans l'échange international qui, là, serait fondé sur de la coopération dans le but de satisfaire le bien commun. Alors, on peut donner un exemple qui existe déjà, même si c'est pas abouti, avec la plateforme et le COVAX, qui recueille en fait des vaccins qui sont fabriqués par les pays pour les donner aux pays en développement. C'est sous l'égide de l'OMS. On pourrait en fait aller plus loin là-dedans. Et donc, par exemple, des pays se spécialiseraient, ceux les mieux placés, bien sûr, se spécialiseraient dans les masques, d'autres, par exemple, dans des traitements ou dans les vaccins, mais uniquement en fournisseur dernier ressort en cas de crise sanitaire grave.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Gilles Dufresneau, un commentaire et pour rebondir et aller peut-être plus loin. Ce que vous évoquez là, Anne Levasseur-Franceschi, et je vous pose la question à vous, Gilles Dufresneau, ça implique un rôle plus important des États, rôle qui a eu tendance ces dernières années à s'estomper.
Absolument. Alors ça, on l'avait un petit peu oublié parce que en matière de commerce international, avant la crise sanitaire, ce que tout le monde avait en tête, c'est que c'était les firmes multinationales qui menaient le jeu, des stratégiques de prise de marché, etc. Et puis, en fait, la crise a révélé quelque chose, c'est qu'en fait, lorsque vous avez des périodes, lorsque surviennent des chocs importants, les États reviennent au premier rang. Et donc, ce que les États ont d'abord fait, c'est de jouer le rôle d'assureur en dernier ressort, puisque dans la plupart des pays du monde, les États ont assuré les revenus. Et puis ensuite, fondamentalement, ce dont on s'est aperçu, c'est que ce sont aussi les États qui ont décidé de fermer les frontières. Ce sont les décisions de confinement, de restriction des échanges qui ont eu un impact économique. C'est ce qui a provoqué une disruption, les disruptions qui étaient observées dans le fonctionnement des chaînes de valeur. Donc on voit très bien que le rôle des États en matière de coordination a toujours été là, mais simplement les crises redonnent une actualité à cela. Et un élément qui va sans aucun doute jouer au cours des prochaines années, c'est le retour en force de la diplomatie sanitaire, qui était déjà en cours, mais qui là revient en force parce que les problématiques de santé, on voit très bien qu'elles sont liées à d'autres problématiques sur lesquelles les États ont aussi la main. En matière d'agriculture, par exemple, dans les chancelleries, on a des postes spécifiques pour des personnes qui s'occupent de la diplomatie en matière agricole, en matière commerciale, puisqu'il faut rappeler que pour vendre du vin, des pommes, des vaccins, etc., on a besoin des États, et puis c'est quelque chose qui rentre dans leur sphère d'influence. Donc le rôle des États, bien entendu, en période des crises, il est accru.
Alors l'idée a beaucoup été évoquée d'un Conseil de sécurité mondiale sur les menaces sanitaires pour éviter les défaillances de coordination et les réponses nationales. Anne Levasseur-Franceschi, est-ce que cela apporterait des solutions ?
Alors, nous, on pense qu'il ne faut pas que ça soit un conseil de plus. Nous pensons qu'on a déjà les moyens entre l'OMS, la FAO et d'autres institutions pour mettre en place cette notion de bien commun et qu'il n'est pas forcément utile de rajouter une autre instance, sachant quand même que ces instances ont des coûts et que il y a une pression fiscale qui pèse déjà. Et donc, nous ne pensons pas qu'une instance supplémentaire soit nécessaire.
Alors, l'année qui vient de s'écouler pose la question de savoir pourquoi les États n'ont pas respecté le droit international et les règles existantes en matière de gestion des pandémies. On peut rappeler que l'obligation est faite aux États de détecter et prévenir la propagation internationale des maladies et de s'en protéger. Beaucoup d'États ont préféré faire cavalier seul. J'ai une question, Gilles Dufresneau, sur l'origine de la pandémie qui fait débat. Est-ce qu'il est important de la découvrir ?
Alors, je dirais que d'un point de vue scientifique, vous savez, tant que le scientifique n'aime pas les énigmes, donc bien entendu, la science va tout faire pour essayer de connaître ce qu'on appelle le patient zéro. Cependant, il faut peut-être rappeler quelque chose. Il faut rappeler que la dernière mission qui avait été mandatée par l'OMS pour aller justement à Wuhan et essayer de comprendre ce qui s'était passé, finalement, est revenu avec des conclusions qui ont été, des demi-mesures, et puis un certain nombre d'interrogations sont demeurées. Donc la question d'essayer de trouver le patient zéro paraît une question qui est difficile, notamment parce qu'elle se heurte, en plus de la science, à des problématiques géopolitiques. Mais il me semble, dans ces conditions, que la réflexion devrait porter sur la manière de changer peut-être l'environnement et les conditions pour que une épidémie comme celle que nous vivons ait moins de probabilité de se reproduire dans le futur, en tout cas que l'on soit davantage armé pour cela. Donc cette question, effectivement, ce qu'elle a révélé aussi, bien entendu, c'est que des discussions qui avaient habituellement lieu en étant circonscrites dans des cercles scientifiques sont venues au grand jour. D'habitude, les scientifiques discutent de ça entre eux, et bon, c'est quelque chose qui est venu sur la place publique, au même titre que la question des traitements, au même titre que la question des vaccins. Donc, bon, voilà un petit peu l'état des lieux.
Alors, on le sait, prévenir les pandémies coûterait moins cher que guérir. Comment faire pour prévenir ? Je ne sais pas qui souhaite répondre en premier, Gilles Dufresneau.
Pour prévenir, il faut surveiller. Vous savez, dans le monde, on a ce qu'on appelle des centres de surveillance et de contrôle des épidémies qui existent partout dans le monde, qui ont été renforcés avec de nouveaux acteurs qui sont entrés dans le jeu, en particulier les Chinois, qui ont été renforcés dans toutes les zones où vous avez des virus comme celui du Covid. On passe par exemple au virus Ebola, qui est un virus très dangereux. Bon, donc, il y a des centres qui existent et avec cette particularité qu'elles associent non seulement la surveillance des virus qui peuvent affecter les êtres humains, mais aussi les animaux, etc. Donc, ça existe. Ce qui manque peut-être, c'est un lieu de coordination. C'est-à-dire que les scientifiques font leur travail naturellement, mais peut-être un lieu de coordination de manière à éviter, par exemple, le petit cafouillage que nous avons observé au moment du démarrage de l'épidémie, où il a fallu un peu de temps avant que l'OMS déclare finalement que nous étions dans un état de pandémie, parce que on n'a pas eu tout de suite les relais d'information au moment où l'épidémie démarrait. Donc, sans aucun doute, ce qui nous manque aujourd'hui, vous le soulignez précédemment, c'est davantage de coordination pour la circulation de l'information. Et deuxièmement, que les États réfléchissent à taire un petit peu leur volonté hégémonique, car la crise a aussi été l'occasion pour les États d'essayer de s'affirmer au niveau international pour, non pas forcément imposer, mais au moins susciter leurs normes, montrer voilà, que tel ou tel État a le leadership en matière de recommandations sanitaires, en matière de traitement, etc. Donc, je ne sais pas, peut-être que Anne veut...
Anne Novassa Franceschi.
Non, je te rejoins, Gilles. Simplement, en ayant peur, en fait, la frayeur dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a ce dilemme de temporalité, ça peut engendrer beaucoup de comportements et on l'a vu, en fait, beaucoup de tensions. Donc, à l'intérieur des États, à l'intérieur même des régions, à l'intérieur des villes et même jusqu'au sein des familles, hein, quand y avait en fait une différence de vision sur la manière d'appréhender, de mettre le masque, des règles sanitaires, etc. Donc, effectivement, les États là ont eu un rôle à jouer. Bon, petit cafouillage, je pense qu'il y a eu un cafouillage vraiment important. Et je pense qu'on a les moyens de mieux coordonner, comme tu disais, au niveau des informations.
Oui. Alors, il y a des mots que vous avez prononcés, le mot coopération, coordination. Le mot solidarité n'a à aucun moment jusqu'à présent été mentionné, Gilles Dufresneau. C'était pourtant l'occasion, cette pandémie, de faire preuve d'un grand mouvement de solidarité à l'échelle planétaire.
Alors, c'était le cas hein, quand même. C'est-à-dire, c'était masqué par d'autres polémiques, mais il y a quand même eu des espaces de solidarité à plusieurs niveaux. D'abord, au cœur des pays, au sein des pays, on a bien vu comment est-ce que les personnes sont devenues extrêmement solidaires vis-à-vis du corps médical qui était en première ligne. D'un coup, les opinions publiques ont pris conscience de la pression, en fait, qu'il y avait sur les hôpitaux, etc. La deuxième chose importante, vous savez, c'est qu'en période de confinement, on se ressent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même les relations humaines. Et il y a cette petite image qui est peut-être anecdotique, mais on a vu que des personnes confinées, eh bien, tous les soirs, sortaient sur leur balcon pour dire aux autres, voilà, je suis là. Donc, au niveau sociétal, on a retrouvé ces réflexes de solidarité. Au niveau international, je dirais que la manifestation de la solidarité, elle est arrivée un peu plus tard. Elle est arrivée, en réalité, elle arrive depuis quelques mois. À la fois parce que l'on a émergé cette idée de comment faire en sorte pour rendre le vaccin accessible à tout le monde. Et puis, deuxièmement, la même chose pour les traitements. Voilà.
On reviendra sur la question des vaccins. On vous retrouve, Gilles Dufresneau et Anne Levasseur-Franceschi, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Nos invités sont les auteurs de « Crise épidémique et mondialisation des liaisons dangereuses » paru aux éditions Odile Jacob. Nous retrouvons Anne Levasseur-Franceschi, économiste travaillant sur les problématiques de l'économie de la santé, et Jules Dufresneau, macroéconomiste, professeur à Aix-Marseille Université et chercheur associé au CEPI. Gilles Dufresneau, dans quelle mesure la question de la dépendance à la Chine est-elle également posée par la crise que nous vivons sur fond de pandémie depuis plus d'un an ?
Alors pour répondre à votre question, il est très important d'avoir en tête la manière dont la Chine affirme sa puissance hégémonique dans le monde. Il y a une différence d'abord par rapport aux pays industrialisés pour lesquels, historiquement, l'hégémonie s'est accompagnée d'un expansionnisme. La Chine fonctionne complètement différemment. En fait, être hégémonique, c'est compter dans les affaires du monde, mais pour pouvoir empêcher ses concurrents d'approcher, c'est-à-dire conserver ses zones d'influence. Alors, dans le domaine sanitaire, ça implique plusieurs éléments. Par exemple, nous connaissons tous les routes de la soie, c'est-à-dire ce grand programme que la Chine a mis en place de façon à pouvoir faciliter son commerce, qui passe par les anciennes routes historiques de la soie. Et ce programme, au départ, c'est un programme d'investissement, c'est-à-dire que la Chine construit dans différentes villes, améliore les infrastructures portuaires, les aéroports, les réseaux ferroviaires, etc. Et à l'occasion de la crise sanitaire là du Covid-19, elle a réactivé un autre volet, qui est un volet donc sanitaire, qui donne maintenant ce qu'on appelle les routes de la soie de la santé. Ça consiste à construire des infrastructures de santé dans les pays dans lesquels les capacités hospitalières, etc., sont déficitaires. Et puis, ça consiste surtout à développer des forums de coopération, c'est-à-dire que les Chinois ont compris que même dans le domaine sanitaire, un pays pouvait être très influent en matière de normes, comment soigner, quel type de traitement mettre en place, etc. Et donc, ça crée d'une certaine façon un premier type de dépendance en matière de normes. La Chine va chercher à imposer ses normes au niveau sanitaire, c'est-à-dire à prolonger finalement dans le monde ce qu'elle est en passe de réussir à l'OMS. La Chine est un des pays centraux à l'OMS pour tout ce qui concerne la manière d'orienter, de conduire les affaires, etc. Donc ça, c'est un premier type de dépendance en matière sanitaire. Et puis, alors il y a plusieurs types de dépendance. Un deuxième type de dépendance, c'est que les Chinois ont aussi compris ce que nous avons tous compris, c'est que les crises sanitaires sont liées aussi à la crise écologique. Et que vraisemblablement, ce qui va se passer, c'est que à l'aune de cette crise, la transformation écologique, la transition écologique va s'accélérer. Et les Chinois sont donc déjà dans le monde de demain, c'est-à-dire qu'ils investissent massivement dans le domaine de l'écologie. Ce sont les premiers fabricants de panneaux solaires, ils investissent dans l'énergie, les éoliennes, etc. Et ce qui est une manière, évidemment, de prendre de l'avance pour créer une dépendance vis-à-vis du reste du monde. Alors il y a deux, peut-être que Anne veut les évoquer, il y a deux autres aspects importants qui concernent la manière dont la Chine veut rendre les autres pays dépendants d'elle en profitant, si vous voulez, de la situation sanitaire un peu grave que nous avons connue.
Anne Levasseur-Franceschi. Outre les routes de la soie, de la santé et de la dépendance par rapport à la transition écologique, la Chine, en fait, assoit son hégémonie sur l'économie de la connaissance. Donc, elle favorise les innovations, les clusters industriels, l'émission de brevets. Et on peut donner un exemple sur les labos pharmaceutiques. Par exemple, il y a Sinopharm qui est très bien placé et en fait, c'est équivalent maintenant aux labos qui peuvent être européens ou américains comme Pfizer ou Novartis. Donc la Chine, en fait, a créé une dépendance parce qu'elle est très bien positionnée sur tous les segments sanitaires. Donc ça peut être comme exemple, je sais pas, l'innovation des vaccins, les traitements médicamenteux, mais haut de gamme, l'oncologie, le domaine de la e-santé. Dernière chose par rapport à la dépendance, c'est la captation des ressources, parce que la Chine, en fait, essaye de capter au maximum les ressources naturelles. Donc, par exemple, toutes les matières premières, aluminium, uranium, cuivre, les terres agricoles, et on en a beaucoup parlé aussi des terres rares. Donc, la Chine estime, elle, détenir seulement 30% des réserves mondiales de terres rares. On pense que c'est beaucoup plus, mais on sait qu'elle fournit 90% des besoins de l'industrie. Donc ça, c'est une double dépendance. La première dépendance, c'est que c'est une dépendance des pays exportateurs de matières premières, car ces pays tirent leurs ressources de ces exportations. Donc on peut citer, je sais pas, le Brésil, l'Australie, par exemple, la Namibie et bien d'autres pays. Et la deuxième dépendance, c'est la dépendance des pays industrialisés dont les entreprises ont besoin d'extraire les métaux rares pour leur économie. Donc cette stratégie de captation des ressources, elle est très intéressante parce qu'en fait, après, il y a une revente sur le marché et la Chine, en fait, est faiseur de prix sur les marchés internationaux des matières premières.
Alors la question des terres rares, on voit les Américains réagir en exploitant et en réexploitant des mines. Et peut-être cela pose question aussi sur notre politique à nous en Europe face à cette question des mines. Alors on l'a compris, Jules Dufresneau, avec tout ce que vous venez de dire, finalement cette pandémie vient renforcer l'hégémonie chinoise, d'où les difficultés à se désengager de cette dépendance vis-à-vis de la Chine. Finalement, la question que je vous ai posée dans la première partie de l'émission sur l'origine de la pandémie qui fait débat et est-ce qu'il est important ou non de la découvrir, en tout cas, à l'heure qu'il est, la Chine n'en pâtit pas une seule seconde.
Alors attention, c'est-à-dire que il y a un effet de loupe, c'est-à-dire que effectivement, à distance, on voit le renforcement de l'hégémonie de la Chine au niveau sanitaire. Maintenant, quand on s'approche un petit peu du pays, il y a quand même des choses qui, de tout petits doutes qui s'instillent chez les Chinois eux-mêmes, c'est que, rappelons que la Chine était un des premiers pays à vouloir montrer que la stratégie de zéro Covid était une stratégie crédible. Dans le monde, il y a en gros deux approches, l'Australie et la Chine, et puis d'autres pays asiatiques pour lesquels il s'agit d'éradiquer le virus, et puis d'autres pays dans le monde qui sont plutôt partis sur une stratégie d'atténuation, d'où les politiques de confinement, etc. Alors au début, on a dit, bon, ça marche, regardez la Chine, ça marche formidablement, regardez aujourd'hui, ils vaccinent 18 millions de personnes, etc. Et les autorités chinoises commencent à réfléchir à cette stratégie parce que ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'on a depuis quelques semaines la réapparition de quelques foyers épidémiques et la population commence, si vous voulez, à contester le fait que pour quelques cas, par exemple dans une province, il y a eu 126 nouveaux cas détectés, une province qui a plusieurs millions d'habitants, les autorités ont dit eh bien on va reconfiner tout le monde et là la population a dit non, c'est pas possible. Donc il y a un effet qui est peut-être contrebalancé entre guillemets sur cette affaire d'hégémonie chinoise. Mais ce que l'on peut dire, c'est effectivement que au niveau international, ce qui est en train de se jouer, c'est ça. Peut-être faut-il rappeler que ça intervient dans un contexte qui est très particulier, qui est que la Chine s'est lancée maintenant depuis 10 ans et elle est en passe de réussir son pari, de rattraper la frontière technologique des pays qui sont les plus avancés, notamment des États-Unis. On parle évidemment des fusées qui sont envoyées sur Mars, etc. Mais il y a un domaine où les innovations technologiques, je dirais que c'est le domaine où la Chine est encore un petit peu en décalage par rapport aux États-Unis, c'est dans le domaine médical. Alors, elle a gagné une partie du combat parce que, comme le disait Anne, on a de grandes firmes pharmaceutiques chinoises qui seront les grandes concurrentes demain des firmes américaines. Voilà. Mais il y a un petit gap encore pour elle à combler sur le plan, par exemple, des vaccins ou sur le plan des traitements.
Alors, on va reparler des vaccins, mais là, l'idée qui est, depuis le début de cette émission, de repenser la mondialisation. Est-ce que la question, Anne Levasseur-Franceschi, des relocalisations est une solution?
Alors, pour nous, relocaliser en tant que tel n'est pas une solution, comme démondialiser ne nous apparaît pas être une solution. En fait, il nous paraît vraiment utopique et irréaliste de refaire venir sur notre sol un plein d'industries parce que c'est un problème de coût. Donc les consommateurs seraient-ils prêts ou pourraient-ils même en termes de pouvoir d'achat acheter des biens qui in fine coûteraient très cher et pèseraient sur leur pouvoir d'achat? On ne pense pas que ça soit le cas. Et en plus, il y a des pays qui se sont spécialisés et qui ont, contrairement peut-être à ce qu'on pouvait penser au départ, notamment la Chine, ne font plus du bas de gamme, sont vraiment positionnés maintenant haut de gamme. Donc nous, on pense que relocaliser n'est pas une solution, tout comme la solution, par exemple, des stocks stratégiques. Mmh. On disait, il faut absolument qu'on ait des masques, etc. Ça aurait un coût énorme. En plus, on a vu que ça se périme, puisque ça peut s'abîmer. Le coût de stockage est immense et ça serait pas forcément adapté. Donc nous, on penche vraiment vers le bien commun mondial, et pas vers des solutions de retour en arrière. On pense plutôt qu'il faut réinventer des choses, s'adapter et coopérer plutôt que de vouloir revenir à un passé qui n'est pas tenable en termes de coûts.
Gilles Dufresneau, vous partagez?
Je partage entièrement. Peut-être que je peux juste ajouter quelque chose, c'est que de toutes les manières, on va prendre un exemple très concret dans le domaine médical par exemple, de toutes les manières, il faut comprendre que, puisqu'on a beaucoup parlé de notre dépendance à la Chine et à l'Inde, leur objectif n'est pas de rester. Vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel des principes actifs des médicaments qui sont fabriqués se trouve en Chine, parce que le pays, compte tenu de sa taille, bénéficie d'économies d'échelle. Mais leur objectif, c'est de faire de la montée en gamme. C'est-à-dire que demain, la puissance de la Chine en matière sanitaire, elle ne va pas se faire sur ce qui est en train de se passer actuellement, mais elle va se faire sur les médicaments haut de gamme à très forte valeur ajoutée. Ce qui veut dire que, d'une manière ou d'une autre, dans 5 ans, dans 10 ans, les Chinois réduiront les investissements qu'ils ont mis sur les principes de fabrication des médicaments. Et les pays européens auront tout le loisir de relocaliser s'ils le souhaitent, parce que les Chinois, ce sera plus dans leur intérêt de le faire. Donc cette question de relocalisation, bien sûr, elle a des avantages peut-être au niveau de signaux géopolitiques envoyés par des gouvernements, etc. Mais malheureusement, la réalité économique de fond n'est pas celle-là. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas obliger des entreprises, des grandes firmes pharmaceutiques ou des entreprises de biotechnologie, vous ne pouvez pas les forcer à relocaliser si ce n'est pas rentable pour elles.
Vous écoutez RFI, géopolitique.
Alors, j'en reviens à la question des maladies infectieuses. D'après le Center for Disease Control and Prevention, qui est la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique, près des 3/4 des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies ou infections transmises des animaux à l'homme. On n'a pas parlé jusqu'à présent de la question des maladies chroniques. Elle est évidemment très importante également, Anne Levasseur-Franceschi.
Alors oui, tout à fait. Il y a 2/3 des maladies infectieuses qui sont zoonotiques, c'est-à-dire transmises des agents pathogènes entre animaux et entre les animaux et les hommes. Et il y a 600 zoonoses juste pour les virus. Alors ça fait beaucoup parler, mais on oublie que presque un enfant sur deux en Asie, en Amérique latine, est atteint d'obésité, que ça a des conséquences énormes, qu'il y a toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies liées au sucre, au sodium aussi, aux graisses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça sera intéressant d'attendre les chiffres du nombre de morts liées au Covid dans les statistiques et de voir en fait une approche globale, de voir est-ce qu'il n'y a pas des chiffres, par exemple, des AVC ou d'autres pathologies qui ont baissé. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de personnes qui, à cause de la comorbidité, sont dans les statistiques du Covid, mais en fait serait mort dans les jours ou les semaines d'autres pathologies. Et ça pose le problème aussi dans les hôpitaux, au jour le jour, sur le terrain. On voit que les places de réanimation, par exemple, qui sont pour le Covid, qui des fois ne sont pas pourvues à un certain moment donné, mais ça empêche, par exemple, des personnes qui viennent d'être opérées de trouver une place en réanimation quand elles en ont besoin à l'hôpital où ils ont été opérés, qui sont obligés d'être transférés ailleurs. Donc en fait, on voit que on a peut-être oublié ou mis de côté ou tellement priorisé le virus du Covid que on a peut-être laissé tomber certaines pathologies qui sont vraiment mortelles et qui au niveau mondial font des dégâts énormes. Donc là-dessus, Gilles, tu peux.
Gilles Dufresneau.
Oui, alors, bon, bien entendu, hein, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. La question de la comorbidité, elle est apparue pour une raison suivante. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à faire cette enquête de façon approfondie. C'est qu'on s'est aperçu au départ, dans les statistiques qui étaient fournies, qu'il y avait beaucoup de personnes qui mouraient. Parmi les personnes qui mouraient du Covid-19, beaucoup souffraient de comorbidité. Alors, en grattant un petit peu, en allant regarder de quoi il s'agit, et en plus dans tous les pays du monde, c'est-à-dire qu'on avait des images au Brésil, aux États-Unis, mais aussi dans les pays pauvres. Et fondamentalement, ce qui apparaît, c'est que si l'on veut, les maladies chroniques constituent un terrain, on va dire, pour la propagation en fait de ce type de maladie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, on s'est dit, ben voilà, vous avez une épidémie comme celle du Covid-19. Il y a une telle énergie qui est mise pour essayer de trouver des traitements, des vaccins. Et puis, ce qui paraissait un petit peu en décalage, c'est que quand vous comparez le nombre de décès rapportés à la taille de la population du Covid-19 avec les décès occasionnés par des maladies chroniques, les diabétiques, les gens qui meurent d'AVC, qui meurent d'hypertension artérielle, etc. C'est sans commune mesure. Mmh. Et comment se fait-il qu'on ne déploie pas la même énergie pour mettre fin à ça? Et en fait, en regardant un petit peu, il nous est apparu que ça s'expliquait par plusieurs types de ressorts. Des ressorts psychosociologiques, fondamentalement parce que avec la mondialisation, les régimes alimentaires, les régimes nutritionnels se sont rapprochés, tout le monde mange mal, voilà. Donc il y a des ressorts psychosociologiques, donc c'est très difficile de changer les mentalités. Et puis il y a des ressorts qui sont liés au commerce lui-même, puisque n'oublions pas que les grandes firmes du secteur de l'agroalimentaire sont devenus évidemment prédominants dans le commerce international.
Et il y a également la question du rythme finalement. Les maladies chroniques, c'est un rythme lent. La question des virus, c'est un rythme qui est beaucoup plus rapide. Cette thématique de traitement des maladies chroniques, on l'entend depuis le sida finalement, depuis les années 80, 1980. Alors, j'ai deux questions. Et il nous reste 3 minutes avant de terminer cette toile, donc ça, on n'y arrivera pas. Mais on a bien compris la nécessité peut-être aujourd'hui de rompre avec la logique exclusivement économique de la gestion de la santé publique. J'avais des questions sur la distribution des vaccins et finalement une certaine inégalité d'accès à ces vaccins. Est-ce que la levée des brevets permettrait d'accélérer la production de vaccins? On a trouver et bien vu combien parfois les États paraissent impuissants face aux grandes sociétés pharmaceutiques. Est-ce qu'on peut les contraindre? Et puis, dernière question, c'est quel monde se dessine devant nous? Vous aurez le panorama. Gilles Dufresneau.
Sur le premier point, il y a quelque chose d'important, c'est que ce sont les opinions publiques. Si quelque chose change aujourd'hui, c'est en particulier sous la pression des opinions publiques. On voit que pour la première fois, un pays comme les États-Unis pousse pour que la technologie des vaccins soit disponible gratuitement pour les pays en développement, que un certain nombre de pays européens leur emboîtent le pas, la France notamment. Donc il y a là quelque chose qui est effectivement en train de changer, mais qui change parce que ce sont les opinions publiques des pays industrialisés qui poussent les gouvernements à penser les choses différemment. Sur le deuxième point, peut-être que Anne
Levasseur-Franceschi.
Oui, simplement, juste sur les vaccins, effectivement, je te rejoins. Il y a eu des tels enjeux financiers des laboratoires que, effectivement, les opinions publiques sont assez choquées et poussent pour une levée des brevets. Sur le deuxième point.
Projection sur l'avenir.
Projection sur l'avenir. Ben nous, on est plutôt optimiste, voilà. Donc, c'est plutôt un message d'espoir, contrairement peut-être à ce qu'on peut entendre, puisque, comme on pense que la mondialisation n'est pas coupable, mais simplement responsable de l'augmentation des transmissions, que c'est un problème de temporalité qui nous a surpris, de ce temps réel, qui a pu être effrayant. On pense que, sans être animé par la peur, on peut prendre des décisions beaucoup plus rationnelles au niveau individuel et aussi au niveau collectif.
À condition, oui, naturellement, mais à condition d'encastrer dans les règles du commerce international, les règles sanitaires, à condition de considérer que le droit à la santé est un droit universel et de ce point de vue-là, la santé est un commun mondial, à condition d'évoluer dans la manière dont nous faisons du multilatéralisme, le multilatéralisme étant conçu comme un lieu de coopération entre les politiques. Et puis, enfin, à condition...
De privilégier le régional.
En privilégiant, oui, naturellement, le régional. Et enfin, en prenant conscience de ce qu'il y a des interdépendances, c'est-à-dire que, finalement, l'état d'équilibre sanitaire d'un pays, c'est le résultat d'une interdépendance de différentes décisions prises dans différentes sphères.
Donc voilà. Une mondialisation à repenser. Merci Gilles Dufresneau. Je rappelle que vous êtes macroéconomiste et professeur à Aix-Marseille Université, chercheur associé au CEPI. Merci aussi à Anne Levasseur-Franceschi, économiste, travaillant sur les problématiques de l'économie de la santé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Crise épidémique et mondialisation des liaisons dangereuses, paru aux éditions Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.